Retour au hockey avec notre analyste, collègue, camarade Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
As-tu eu du plaisir à regarder le match Islanders-Lightning hier?
Ben, c'est, on se regarde, on s'étudie. Là, c'est la... Il fallait absolument que les... en tout cas, c'est, moi, je pense que les... Quand tu regardes un match comme celui-là, c'est deux entités complètement différentes qui s'affrontent. Et il fallait que les Islanders gardent ça vraiment tranquille, un bas pointage, que ce soit à leur portée. Et ils ont réussi. Mais est-ce qu'ils sont capables de répéter ce genre de prestation? Ça, j'en doute, parce que pour moi, là, c'est de réussir à battre le Lightning à un bas pointage, soir après soir, avec la force de frappe qu'ils possèdent, j'ai un petit peu de misère à voir ça. Par contre, écoute, faut
ils sont capables de les jouer, ces matchs-là, le Lightning. Ils sont capables de garder ça à bas pointage. Et, oui. Et plus souvent qu'autrement, d'en sortir gagnant. Hier, c'est pas ce qui est arrivé.
Non. Puis, je pense que les Islanders, leur identité est très, très claire. C'est parce que, bon, ils ont eu des matchs en début de série où on... Moi, le premier, j'ai dit « Wow, je suis surpris, là. Ils ont une certaine force de frappe, de l'attaque en périphérie, mais c'est beaucoup plus limité. » Alors, lorsqu'on arrive dans une situation comme celle-là, puis ça, à certains égards, ça peut ressembler un peu aux Canadiens, là, il faut vraiment que la défensive soit impeccable. Tu joues un petit jeu, là, comme je disais tout à l'heure, un jeu de patience. Et, et Barry Trotz, c'est son approche. Alors, Il y a un succès qui est évident dans sa façon de fonctionner, mais ça lui prend, comme entraîneur, lui aussi, ça y prend quand même des joueurs qui sont capables de marquer. Après, c'est à lui à les retenir, façon de parler, à les placer dans un cadre qui est très restrictif en termes de latitude offensive en série. Puis il faut que tu profites des erreurs des autres. C'est la clé, c'est un peu ça. Puis il faut que tu sois capable de faire le moins d'erreurs possible.
C'est la seule façon de gagner pour eux, Danny.
Ben oui. Et aussi de provoquer des erreurs. C'est que tu ne peux pas être trop passif parce que si tu te places en position passive, pour paraphraser l'entraîneur du Canadien, tu es sur les talons puis c'est sur le bout des pieds qu'il faut jouer. Donc, il faut vraiment être un petit peu plus en attaque. Puis l'équilibre entre les deux, je ne la vois pas chez les Islanders.
Mais tu sais, je suis convaincu qu'ils sont capables de générer davantage d'attaques. C'est une décision philosophique et stratégique de dire il faut pas rien essayer à moins d'être bien sûr, sinon on va se faire brûler. C'est de se convaincre que c'est la seule façon de gagner. Regarde Dallas, ils tiraient de l'arrière. L'autre chose, c'est une équipe qui est capable d'être très, très hermétique, qui protège le devant du filet, mais contrairement aux Islanders, puis je pense que les Islanders sont capables de le faire à un moment donné. C'est quand ils ont décidé de mettre la pédale le pied sur la pédale à gaz Dallas, là, avec 10 minutes à faire en troisième période, ils ont été capables d'en générer de l'attaque. Fait, des fois, je pense que c'est pas la seule façon de gagner. Peut-être que ça réconforte les entraîneurs de gagner de cette façon-là.
Bien, en fait, c'est tous les entraîneurs, même John Cooper, à un moment donné, a dit à ses joueurs, soyez patients, croyez en ce qu'on fait, puis ça va fonctionner. Puis après le match, le Lightning a gagné, puis les joueurs, ce qu'ils disaient, c'était ça, là. On était patients, on a resté dans le système. On a cru en nos chances, puis à un moment donné, ça s'est concrétisé. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est toujours la même chose. C'est que tu veux que l'adversaire se commette un peu. C'est un jeu psychologique. Le combat de boxe, toi, t'es plus un spécialiste de la boxe.
On a pensé à la même affaire. Regarde deux gars qui s'étudient pendant 10 rounds, puis tu vires de poste, tu sais.
Ben oui, tu veux pas ça, toi, comme consommateur. Mais en même temps... Lorsque tu es du côté stratégique ou de celui qui met en place le plan d'attaque, tu sais très bien que des fois, l'adversaire est tellement meilleur que toi, tu te dis, il faut qu'il me montre ses faiblesses. Donc, je vais le pousser à l'impatience. Je vais le pousser à l'incertitude. Je vais l'emmener dans une zone où il est tout à coup, sa confiance est altérée parce que les succès sont pas là. C'est un peu ce genre de jeu-là, mais c'est un jeu aussi qui est dangereux à cause de la nature du sport du hockey. C'est que maintenant, ça patine, t'es capable de générer de l'énergie en patinant. Tu peux pas être trop passif, c'est mon point. Et je pense que, oui, un soir donné, tu peux être patient, mais il faut pas que tu sois patient et passif en même temps.
Faut-il se réjouir donc de l'influence de la victoire des Blues en finale de la Coupe cette année? Puis je veux pas non plus là regarder ça juste négativement en soulignant des choses que moi j'aime moins là. Mais tu sais, on s'est beaucoup enthousiasmé du fait que le hockey devenait plus offensif, plus rapide, élimination de la ligne rouge. Et il y en a. Puis j'imagine que c'est la nature du sport, de tous les sports. À un moment donné, on regarde du vidéo, on regarde des façons de s'ajuster. Puis on trouve encore des façons. Les arbitres sifflent moins qu'il y a une coupe d'année. Puis on trouve encore des façons de retourner à ce qui fait foi de tout, c'est la guerre en avant du filet, devant ton filet en défensive, des gros bœufs qui sont capables de jouer du Sherwood pour bloquer les occasions de marquer, du bœuf en avant du filet en offensive pour être capable de bloquer la vue. C'est pas des stratégies bien bien excitantes ni créatives. Puis l'acquisition, puis c'est une bonne acquisition dans ce contexte-là que celle d'Edmundson qui vient de signer un contrat de 4 ans de 3,5. Mais je veux dire, pour le show, c'est-tu une bonne direction là où on s'en va le hockey à nouveau?
Ben, en fait, c'est que si tu regardes l'acquisition d'Edmundson, je veux dire, c'est pas ça qui va t'exciter comme consommateur de hockey. Mais Edmundson, c'est le genre de joueur qui aide une équipe à aller en série. Mm-hmm. Parce que lui, c'est celui qui ralentit l'adversaire sur la guerre d'usure. C'est lui qui malmène un peu l'adversaire, qui s'approche trop de ton gardien de but. C'est le genre de joueur qui te permet de répartir un peu mieux les minutes parce qu'il y a un niveau de fiabilité de par son physique, de par le fait que, comme tu es plus costaud, ben il y a des minutes que tu peux prendre sans faire le même, sans avoir la même charge de travail qu'un défenseur qui est moins costaud.
Puis il peut jeter les gants en plus, lui.
En plus.
Mais je parle, oui, ça, moi je ne fais pas le procès du gars.
Non, je comprends très bien ce que tu veux dire.
C'est le procès du style. On semblait vouloir s'éloigner de ça. Souviens-toi même, les stratégies des équipes, peut-être davantage en saison régulière, c'était de ne même pas t'occuper du gars en avant du filet parce que dans le fond, là, t'étais rendu, au lieu d'avoir juste l'adversaire qui bloquait la vue de ton gardien de but, t'avais tes deux gars qui piochaient dessus, fait que le gardien voit plus rien. Mais là, on a tout oublié ça, puis là, il y a 3-4 gars en avant de chaque filet, puis ça donne ce que ça donne.
Ouais, en fait, c'est que à un moment donné, là, tu veux, le gars devant le filet, tu t'en occupes pas quand la rondelle est dans le coin. Tu comprends? Si la rondelle monte au point d'appui, ben là, à un moment donné, il faut peut-être ton gardien avoir la rondelle. Et c'est là où il y a comme une espèce de vitesse de réaction. Il y a comme une réaction en chaîne autour des quatre joueurs qui sont sur la patinoire, des avantages. C'est une chose qui est facile à expliquer, mais qui est complexe à exécuter parce que la rondelle bouge plus vite que l'individu. Mm-hmm. Donc, il y a comme un peu une situation qui fait que, oui, effectivement, t'as raison. Bon, des fois, tu dis, je trouve ça plate, là. Il place des gars devant le filet, ça crée des situations. Mais c'est parce que le joueur devant le filet crée de l'incertitude. Puis moi, je t'ai parlé de ça à une ou deux reprises, puis j'avais participé à une analyse avec l'Université de Trois-Rivières qui faisait une étude sur les comportements des joueurs sur la glace, à savoir si les comportements sont individualisés ou si les comportements sont systématiques, dans le sens que est-ce que c'est le système qui incite le joueur à prendre une décision ou est-ce que c'est son initiative personnelle? Puis là, ben, on regardait les matchs en série d'après-saison, puis d'ailleurs, le Lightning était impliqué, il y avait les Blackhawks de Chicago qui avaient gagné cette année-là. Puis une chose qui revenait constamment, c'est que les Blackhawks de Chicago plaçaient de façon systématique en entrant dans le territoire un joueur dans le filet. Parce que un joueur dans le filet, ça veut dire
forcément, faut que tu t'en occupes.
Faut que tu t'en occupes. Donc ça isole un joueur. Donc ça crée de l'espace. Mm-hmm. Ça diminue l'efficacité défensive parce que tu peux être moins actif, tu perds un joueur. Fait que là, donc, ta structure...
Tu te concentres sur une zone, Danny, dans le fond. C'est pour c'est ça que, comme Dallas disait, Bonus disait, on était prêt à les laisser tourner autour. Tu sais, Vegas en lançait souvent au but, là. Mais sauf que la zone privilégiée, là, l'enclave, ben ça, c'était la forteresse.
Oui, puis à un moment donné, je regarde l'acquisition de
Edmundson?
Par rapport au Lightning de Tampa Bay. Je regarde Maroon en avant. Tu sais, qu'est-ce qu'il apporte avec l'équipe? Puis tu te dis, bon, ben, des gros joueurs devant le filet, c'est super important d'avoir ce type de joueur-là parce que quand tu as un gros bonhomme qui va devant le filet, c'est clair que. Écoute, tu gagnes la Coupe Stanley, t'as besoin d'un moment donné d'un gros joueur qui va aller devant le filet, qui va faire l'écran, qui va venir déranger l'adversaire.
On a tué à Montréal?
Ben c'est ça. C'est une acquisition qui, je suis convaincu, dans la tête du directeur général, qui va essayer de voir est-ce que je peux me trouver un Maroon à quelque part, tu sais, parce que veux pas. Entre Maroon et Gallagher, c'est sûr que Maroon n'aura jamais l'efficacité de Gallagher, jamais. Mais il va prendre de la place, puis il va prendre des coups, puis il va prendre des minutes que Gallagher va avoir plus de difficultés à prendre. La combinaison des deux sur l'avantage numérique, ça j'aime beaucoup, parce que si tu places Maroon devant le filet, Gallagher va rentrer en deuxième vague, les joueurs qui sont un peu moins costauds vont rentrer en deuxième vague, il va créer de l'espace pour ses coéquipiers.
Oui, oui.
Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec le Lightning. Moi, je pense que tu peux pas avoir beaucoup de joueurs comme ça qui sont peut-être un peu plus lents, moins agiles aujourd'hui dans le genre de jeu qu'on joue, mais en série... Autant Edmundson est un joueur qui t'amène en série, un gars comme Maroon est un joueur de série, pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure.
Puis en espérant que le défenseur acquis par Marc Bergevin soit un gars utile aussi dans le processus des séries, mais je comprends ce que tu veux dire par rapport à ce que ça va donner. Puis d'ailleurs, on s'attend d'autres mouvements de personnel dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça a commencé à bouger, une transaction aujourd'hui. Tu as pris connaissance de ça. Eric Staal qui a été changé au Sabre de Buffalo par le Wild en retour de Marcus Johansson. Écoute, Staal a 35 ans. C'est un vétéran. J'ai hâte de voir un petit mot bien vite sur Buffalo. Penses-tu que c'est une bonne acquisition pour eux?
Ben écoute, moi, Buffalo, tant qu'ils ne régleront pas la situation devant le filet, pour moi, c'est ils ont besoin de stabilité. Buffalo a besoin de stabilité et je pense que Staal amène du leadership. C'est un élément qui était probablement identifié comme OK, comment on peut faire pour amener du leadership dans cet entourage-là pour au moins un an ou deux là, afin de permettre aux jeunes leaders de l'équipe de peut-être moins avoir à se soucier de tout ça. Puis en même temps, ben ça te prend un one-two punch. Tu sais, l'an passé, là, Jack Eichel, il était bon. Là. On peut pas quand même pas toujours tout lui mettre sur les épaules, mais il y avait un grand vide après lui.
Juste un petit mot dans la dernière minute, pas de jeu, mais de notre chronique. Est-ce que tu as apprécié, si tu avais, tiens, une minute nostalgie, 30 secondes, si tu avais juste pour une saison, pour le plaisir de la discussion, si tu pouvais ramener Radulov ou Pacioretty à Montréal, le temps d'un 30-40 match ou d'un tournoi dans une bubble, tu ramènes lequel des deux?
Ben écoute, honnêtement, je regarde à droite, je regarde à gauche, j'aurais tendance à amener Pacioretty, mais pas lui donner le C. Je pense que si on avait gardé Pacioretty loin du rôle de capitaine, on aurait probablement eu un meilleur joueur.
T'as toujours été un fan du capitaine, mais t'as pu remarquer comme moi que dans la série contre Vegas, il allait pas souvent dans la zone où ça faisait mal. Hein?
Non. Ça a pas été décevant, comme bien d'autres joueurs. Écoute, ça a pas été une grande série. Il y a bien des joueurs de qui on attendait beaucoup qui n'ont pas appelé présent à un moment extrêmement important. Puis les autres, ils vont avoir à faire un retour sur leur ligne de centre, je pense. Ils sont très bons à l'aile. Je suis pas sûr qu'ils sont si bons que ça au centre.
Danny, sur ce, je te souhaite une excellente soirée. J'ai bien hâte de voir l'autre match de la série Islanders, bien sûr, et Tampa Bay. Puis on s'en reparle, évidemment.
Avec plaisir, Mario.
Merci, bonne soirée.
Bye, bonne soirée.